Bonjour, c'est Harry. Dans ce rendez-vous hebdomadaire, ouvrons ensemble une parenthèse philosophique pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Le bonheur. Voilà sans doute le mot le plus simple, le plus universel et pourtant le plus insaisissable. Qui n'a jamais dit ou entendu dire « je veux être heureux » et pourtant, que voulons-nous vraiment lorsque nous prononçons cette phrase ? Aristote, Épicure, les stoïciens, Montaigne, Pascal, Kant, Spinoza, Nietzsche, Freud et jusqu'aux penteurs contemporains comme Roger Paul Droit ou André Comte-Sponville n'ont cessé de tourner autour de ce mystère. Qu'est-ce qu'une vie heureuse ? Car le bonheur, chacun en rêve, mais personne ne peut l'attraper comme on saisirait un objet. Kant le disait avec sa rigueur coutumière, le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. En d'autres termes, nous ne pouvons pas le définir avec certitude. Nous savons ce qu'est la douleur, nous connaissons le malheur, mais le bonheur nous échappe comme une fumée légère. Cette chronique propose aujourd'hui donc un voyage, une traversée des conceptions du bonheur, de l'Antiquité à aujourd'hui, afin de comprendre ce qui, dans un mot si simple, se cache d'infini et de paradoxe. Pour Aristote, le bonheur, l'œil démonia, est le but ultime de toute existence humaine. Tout ce que nous faisons, dit-il dans l'Éthique à Nicomaque, nous le faisons pour être heureux. Mais à la différence d'Épicure, qui valorisera la recherche des plaisirs simples, Aristote voit dans la contemplation la plus haute forme du bonheur. Le bonheur, écrit-il, semble consister dans le loisir, mais pas un loisir oisif, non, un loisir intellectuel, celui qui permet l'activité de l'intellect, l'activité contemplative. Être heureux, c'est s'élever à la connaissance des vérités éternelles. Voilà pourquoi, pour lui, le philosophe est l'homme le plus heureux. Non parce qu'il fuit le monde, mais parce qu'il trouve dans l'usage de sa raison le plaisir le plus durable et le plus complet. Ainsi, le bonheur aristotélicien est indissociable de l'accomplissement de la fonction propre de l'homme, c'est-à-dire la raison. Vivre selon la vertu, c'est bien, mais contempler la vérité, c'est atteindre la perfection. À rebours d'Aristote, Épicure nous invite à une sagesse plus douce, plus accessible. Nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse, écrit-il dans sa lettre à Ménécée. Mais attention, il ne s'agit pas de céder à tous les plaisirs, encore moins de courir derrière les excès. Le vrai bonheur pour Épicure, c'est l'ataraxie, l'absence de troubles, la paix de l'âme. Cela suppose d'apprendre à distinguer les désirs naturels et nécessaires, boire, manger, se loger, se protéger, des désirs vains et infinis, richesse, gloire, pouvoir. Le sage est celui qui se contente de peu, qui jouit des plaisirs sobres, qui cultive l'amitié et qui ne craint ni les dieux, ni la mort. Le bonheur est alors comme le réveil d'une sieste d'été, un pur plaisir d'exister, paisible, sans agitation. Avec les stoïciens, le bonheur se déplace encore, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, tous affirment que l'homme ne peut pas maîtriser le monde, mais il peut se maîtriser lui-même. Épictète le dit avec force. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Dès lors, le bonheur n'est pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous l'accueillons. Être heureux, c'est consentir à la nécessité, aimer le destin, ce que Nietzsche appellera plus tard « amor fati ». Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est donc en travaillant sur soi, en apprenant à détacher notre bonheur des événements extérieurs, que nous devenons libres et heureux. Enfin, d'autres philosophes antiques, les sceptiques, doutaient même qu'il soit possible de définir le bonheur. Pour eux, l'important n'est pas tant de trouver une définition que de suspendre son jugement, d'accepter de ne pas savoir et de trouver dans cette suspension une forme de tranquillité. Pour le christianisme, le bonheur véritable ne se trouve pas dans ce monde. Saint Augustin affirmait que notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi, en s'adressant à son Dieu. Ici, le bonheur est transcendant. Il se situe dans la béatitude éternelle, au-delà de la mort. Cette vision domine le Moyen-Âge. Sur terre, au mieux, nous pouvons goûter à des avant-goûts du bonheur céleste, mais jamais à son accomplissement complet. À la Renaissance, Montaigne réintroduit une sagesse plus terrestre. Dans ses essais, il célèbre la diversité de la vie, les plaisirs simples, la convivialité, l'amitié. « Je veux qu'on agisse, écrit-il, et que la mort me trouve plantant mes choux. Autrement dit, le bonheur n'est pas dans l'attente d'un autre monde, mais dans la vie présente, vécue avec légèreté et lucidité. Montaigne nous apprend à goûter le moment, à accepter l'imperfection, à rire de nous-mêmes. Une sagesse à la fois humble et joyeuse. Mais son presque contemporain, Pascal, est plus sombre. Pour lui, l'homme est misérable, condamné à la mort et à l'angoisse. Que faisons-nous pour supporter cela? Nous nous divertissons. Nous cherchons à fuir la pensée de notre condition par mille occupations. Le bonheur dans ce monde est donc une illusion. Le seul vrai bonheur est en Dieu, et il passe par la foi. Spinoza, au XVIIe siècle, propose une vision singulière. Le bonheur est une joie active, née de la connaissance adéquate. Comprendre les lois de la nature, comprendre nos désirs et nos affects, c'est augmenter notre puissance d'agir. Dans l'éthique, il décrit la béatitude comme l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire la joie qui naît de la compréhension rationnelle de la nécessité du réel. Le bonheur est donc lié à la liberté, mais une liberté entendue non comme absence de contraintes, mais comme compréhension lucide. Au XVIIIe siècle, Kant prend la question et affirme « le bonheur est un concept indéterminé ». Chacun le rêve, mais nul ne peut le définir universellement. Pour lui, le devoir moral ne doit pas être confondu avec la recherche du bonheur. L'homme doit agir par devoir, non par inclination. Quant au bonheur, il reste un idéal de l'imagination, impossible à cerner a priori. Pour Nietzsche, le bonheur n'est pas un état de repos ou de paix, mais une intensité, une puissance de vie. Être heureux, c'est dire oui à la vie, jusque dans ses souffrances. Le bonheur se confond avec la force de créer, de transformer, d'aimer la vie telle qu'elle est, dans sa tragédie même. Son mot d'ordre est clair. Deviens ce que tu es. Le bonheur n'est pas un don, mais une conquête. Freud, dans Malaise de la civilisation, se montre pessimiste. La vie impose des renoncements, la société exige des sacrifices, et nos désirs infinis se heurtent à une réalité bornée. Le bonheur, pour lui, est un programme irréalisable. Au mieux, nous obtenons des satisfactions partielles, des diminutions de souffrance. Plus récemment, Roger Paul Droit propose une métaphore frappante. Le bonheur est comme un funambule, un équilibre-déséquilibre, toujours instable. Vouloir supprimer toute douleur, tout négatif est une illusion. Être heureux, c'est marcher malgré le risque, avancer en sachant qu'on peut tomber, mais en gardant la volonté de tenir. Et nous arrivons à André Comte-Sponville, philosophe contemporain. Il a consacré plusieurs ouvrages à cette notion, dont « Le bonheur désespérément », un livre qui regroupait, en fait, des conférences qu'il a données. Comte-Sponville distingue soigneusement le bonheur de la félicité. La félicité, c'est une joie constante, immuable, parfaite. Mais cela n'existe pas. La vie est faite de variations, de hauts et de bas. Confondre le bonheur avec la félicité, c'est s'assurer d'être malheureux. Il propose alors une définition simple et puissante. Le bonheur, c'est le contraire du malheur. Plus précisément, tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Nous savons ce qu'est le malheur, quand toute joie semble impossible. Eh bien le bonheur, c'est l'inverse. Vivre une période où la joie peut surgir à tout moment, même si elle n'est pas toujours présente. Comte-Sponville est catégorique. Le bonheur n'est ni dans l'avoir ni dans l'être. Il est dans le faire. L'argent n'apporte pas le bonheur, même si la misère fait le malheur. Se contempler soi-même n'apporte pas davantage le bonheur. Ce qui rend heureux, c'est d'agir, d'aimer, de créer, de travailler, d'entreprendre. Comme Montaigne, il veut que la mort nous trouve en train de planter nos choux, en train d'agir, de vivre. Enfin, Comte-Sponville propose de dépasser le simple carpe diem. Cueillir le jour, c'est bien, mais il préfère dire carpe aeternitatem, cueillir l'éternité. Autrement dit, habiter pleinement le temps présent, qui est la seule dimension du temps réellement vécu. Vivre au présent non comme un instant fugace, mais comme la durée même de notre existence, ouverte sur la gratitude du passé et la promesse de l'avenir. Ainsi, de l'Antiquité à aujourd'hui, nous voyons que le bonheur n'a jamais cessé de fasciner et de tromper les philosophes. Tantôt contemplation, tantôt plaisir mesuré, tantôt accord avec la nature, tantôt grâce divine, tantôt joie lucide, tantôt puissance tragique, tantôt équilibre fragile. Mais peut-être, avec André Comte-Sponville, pouvons-nous retenir une sagesse simple. Le bonheur n'est pas un absolu à atteindre, ni une possession à accumuler. C'est une pratique, une manière d'agir, de vivre, d'aimer. Le bonheur, c'est la joie rendue possible par nos actes. Alors ne rêvons pas d'un paradis inaccessible. Plantons nos choux, écrivons nos pages, aimons nos proches, agissons dans la cité, et que la mort, lorsqu'elle viendra, nous trouve vivants. Et ainsi se referme notre parenthèse philosophique. À bientôt pour de nouvelles pensées. C'était Harry sur Radio Prévert.